France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue en Corse, au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain dans cette France qui recherche médecins désespérément.
Heureusement qu'on a encore notre médecin de famille qui travaille même le week-end et même le soir. Et ça, je pense, on ne va plus en avoir. Parce que quand il prendra sa retraite, nous, on est mal.
La Corse qui nous accueille compte autant de médecins par habitant que les autres régions de France, mais les médecins y sont plus âgés et surtout les spécialistes beaucoup moins nombreux. Pas de CHU notamment et un hôpital à Bastia surchargé.
On est sous tension et en manque de lits au moins 360 jours dans l'année. Des problématiques de fonctionnement qu'on ne rencontre pas sur le continent et qui ne sont pas forcément comprises du continent.
Oui, des spécificités corses, l'insularité, l'isolement que l'on ne prend pas toujours en compte du continent, même si nous verrons qu'au fil des ans, l'État et les communes ont ici expérimenté des solutions pour réduire les déserts médicaux. Et nos invités, élus, médecins, patients, nous diront ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et avec vous, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour Jérôme.
Toute l'actualité de ce jeudi a commencé par cette attaque à la grenade hier soir à Grenoble.
Oui, dans un bar du quartier sensible de la Villeneuve, gangrené par le narcotrafic. Les habitants sont excédés, vous les entendrez. La piste terroriste semble écartée, nous ferons le point sur l'enquête. Dans ce journal également, à Munich, une voiture a foncé dans la foule ce matin. Le bilan provisoire est de 28 blessés. Le gouverneur de Bavière parle d'un probable attentat. Et puis après le coup de fil entre Trump et Poutine, les Ukrainiens veulent la paix, mais pas à n'importe quel prix. Reportage avec des habitants de Dnipro. Et enfin, 100 milliards d'euros sur 15 ans pour adapter le réseau électrique. RTE voit les choses en grand. On vous explique les détails de cet investissement colossal.
Et puis juste avant 14h, la Corse au cinéma, les longs métrages tournés ici se succèdent en salle depuis quelques mois avec des acteurs corses qui crèvent l'écran. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Pour commencer ce 13-14, nous nous sommes installés au bord de la route. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres au sud de Bastia, sur la commune de Linguizeta, qui s'étend entre la mer et la montagne. Et sur cette route T10, Élodie Martin, qui est sage-femme libérale, s'est arrêtée pour nous répondre. Bonjour Élodie.
Bonjour.
On est à côté de votre véhicule. Oui. Vous êtes installée voie Ventiseri, c'est à quoi, une quarantaine de kilomètres?
Oui.
Au sud, ici de Linguizeta. Vous pouvez nous faire le tour du véhicule, très important, parce que vous y passez une bonne partie de votre semaine.
Oui.
Lorsque
c'est
vous
mon bureau
allez...
2.
C'est votre bureau 2.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, à l'avant? Qu'est-ce qu'on trouve juste là, à côté du conducteur, du siège conducteur?
Bon, à côté du siège conducteur, il y a souvent mon sac ou des papiers. Il y a surtout mon téléphone pour les plans de route, pour les itinéraires et pour la durée, pour que je puisse avertir les gens.
Pour ne pas se perdre?
Non, pour ne pas me perdre. Bon, à force, on se perd moins. Derrière, j'ai mon sac avec dedans tout ce qui est nécessaire de soins pour les patientes, en fait. C'est une sacoche avec des compresses, avec du matériel, un tensiomètre, des papiers, un ordonnancier, des petits trucs. Et j'ai dans le coffre...
On fait le tour, on est à l'arrière.
D'autres choses, j'ai ma balance pour peser les bébés, parce qu'on fait les surveillances de bébés dès la sortie de la maternité, donc on doit repeser les petits. Et j'ai aussi un monitoring là dans une valise pour faire la surveillance pendant la grossesse, faire les monitos de surveillance des grossesses pato.
Il faut rien oublier, évidemment.
Non, il faut rien oublier.
Quand on part, vous avez des patientes ici, vous venez souvent à Linguizeta, on est loin quand même de votre cabinet,
oui.
Ici, 40 km.
On est à 3 quarts d'heure de mon cabinet, mais oui, j'ai des patientes ici, j'ai même des patientes un peu plus haut, 15-20 minutes au-dessus à Alistre, ou même plus haut à Folie, il y a une heure et demie de mon cabinet, une heure et quart et demie. Bon, en plus, en été, c'est beaucoup plus long, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur la route. Donc oui, on est un peu loin du cabinet, mais bon, on ne vient pas là tous les jours, tout le temps. C'est vrai que c'est une surveillance qui n'est pas forcément quotidienne, mais on vient quand même assez loin. On a de la route, il y a du trajet, c'est comme ça.
On est dans la plaine orientale de Corse, ouais. Comme ça qu'on baptise cet endroit. On voit les sommets au loin. Certains sont enneigés.
Ouais.
Y a pas mal de sages-femmes ici. C'est pas le problème. Le problème, c'est la particularité, c'est l'éloignement de l'hôpital.
Oui, nous,
l'hôpital
on est
de Bastia.
On est à une heure et demie minimum de l'hôpital. Moi, au cabinet, c'est 1h40 de l'hôpital. Avec l'été, il faut considérer que les patientes mettent plus de 2 heures pour arriver à l'hôpital. À partir d'avril-mai, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que les patientes enceintes qui projettent d'accoucher à l'hôpital de Bastia sont un peu inquiètes de ce trajet, en toutes. Elles n'ont pas envie d'accoucher avant. C'est tout un travail de préparation.
Ça arrive.
Ça peut arriver, ouais, ça arrive. Elles arrivent pas tout le temps au bon moment. Ça couche dans le camion.
Camion des pompiers,
ouais.
Ou à la maison.
Ou à la maison.
C'est plusieurs fois par an.
C'est plusieurs fois par an.
Ça se passe bien?
Oui. on n'a pas de souci parce que finalement elles sont quand même accompagnées, les pompiers arrivent à temps, sont là pour, enfin avec le SAMU et le médecin pour l'assistance à la naissance. J'ai déjà été contactée dans le genre de situation aussi pour l'assistance à la naissance, mais voilà, j'ai jamais eu de cas particulièrement compliqués. Tout le monde va toujours très bien.
Cet éloignement de l'hôpital, ça crée peut-être aussi une solidarité entre vous, entre les soignants.
Oui, on est plusieurs sages-femmes, on est plein de médecins, plein d'infirmiers, il y a plein de monde et en fait dès qu'on a besoin de quelque chose, on arrive à se contacter pour s'entraider, s'adresser des patients rapidement, avoir des avis, pouvoir travailler en commun, quoi.
Ça fait 5 ans que vous êtes installée ici. Oui. Avant, vous étiez en Picardie. J'ai l'impression que vous êtes heureuse
ici,
Élodie.
Oui. Les gens sont adorables. Les patientes sont géniales. Les collègues sont géniaux aussi. Alors certes, c'est loin, mais voilà, on fait avec, on se prépare et on anticipe les choses au mieux.
Et on peut, avec un véhicule électrique, circuler dans cette partie de la,
oui,
la Corse.
Il ne faut pas oublier de se charger.
Voilà, faut juste pas oublier de charger avant de partir. Merci Élodie, Martin, de nous avoir consacré quelques minutes. Je vous laisse reprendre votre route. Soyez prudente. Nous, on va descendre vers la mer et retrouver au cœur de cette commune de Linguizet, 1200 habitants, nos invités pour parler de ce médecin généraliste que la commune attend depuis des années. Pour cela, elle a construit un cabinet médical, mais elle attend le médecin qui pourra l'investir, ce cabinet. Ça, c'est dans une quinzaine de minutes. Avant ça, on vous retrouve, Corinne Audouin, pour toute l'actualité de ce jeudi. Et donc, d'abord, Grenoble, après cette attaque à la grenade hier soir.
Oui, c'est un cran de plus franchi dans la violence, dans le quartier du village olympique, proche de la Villeneuve, gangrené par les règlements de compte liés au narcotrafic. Un homme a lancé une grenade dans un bar associatif hier soir, peu après 20h. L'explosion a fait une quinzaine de blessés, dont 6 grièvement. Et pour certains, le pronostic vital est toujours engagé. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Corinne.
Vous êtes sur place, alors si on ne connaît pas encore le mobile de l'attaque, les habitants du quartier n'en peuvent plus.
Oui, c'est un quartier, c'est un café modeste d'une association culturelle algérienne. En fin de matinée, on voyait encore les portes sans les vitres, soufflées par l'explosion. Désormais, le rideau métallique est baissé et la police a quitté les lieux. Les habitants circulent librement, comme cette femme, pas vraiment inquiète.
Je passe là tout le temps et j'ai eu aucun souci jusqu'à maintenant. Aucun.
Comment vous l'expliquez ?
Un peu de tout, de armes, trafic. Fait pas bon vivre à Grenoble.
Ici aussi, le climat s'est dégradé, disent les passants, mais l'un d'eux, Michel, relativise.
Bon, c'est un quartier paisible en ce sens où il y a des enfants qui jouent dehors. Néanmoins, on peut assister à des rodéos ici en plein milieu du quartier. Mais là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Peut-être des règlements de compte, mais compte tenu de la population qui fréquente ce café, peut-être que c'est un acte raciste, mais les gens vivent tranquillement ici. Il y a plus de drogue du côté Villeneuve.
La Villeneuve et sa mauvaise réputation, le quartier est situé à 500 mètres d'ici. Tout le monde le montre du doigt comme source de tous les maux. Le patron du bar en est originaire.
Merci beaucoup Christophe Vincent. En direct donc de ce quartier du village olympique, on l'a compris, plus calme que celui tout proche de la Villeneuve. Alors à ce stade, le procureur de Grenoble écarte la piste terroriste. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Du service police-justice de France Inter. Et ce matin, l'auteur des faits est toujours en fuite.
Oui, on essaye déjà de comprendre ce qui a pu se passer, confiée ce matin une source policière. Aucune hypothèse privilégiée à ce stade, a déclaré un peu plus tard le procureur adjoint de Grenoble, François Touré de Coucy, qui a par contre, vous l'avez dit, exclu effectivement la piste terroriste car rien ne vient l'alimenter depuis hier soir. Le patron de cet établissement a lui-même affirmé qu'il était peut-être la cible de cette attaque selon nos confrères du Parisien, laissant entendre un contentieux en cours, mais sans vouloir préciser à ce stade la raison et qui pouvait lui en vouloir. Une perquisition a permis de découvrir des paquets de cigarettes de contrebande. Alors, trafic de cigarettes, racisme, racket, ce qui est sûr, c'est que ce bar associé communautaire n'était pas considéré par les services de police de la ville ou de la région comme un lieu de trafic de drogue, comme il peut y en avoir dans ce quartier sensible du village olympique. L'affaire a été confiée ce matin à la GIRS de Lyon, la juridiction interrégionale spécialisée sur le crime organisé, sachant que ces grenades de type militaire avec des milliers de billes d'acier font partie des arsenaux découverts dans des grosses affaires de narcotrafic.
Merci pour ces précisions, Emmanuel Leclerc. Nous allons tout de suite à Munich, en Allemagne. Une voiture a percuté des passants ce matin. 28 personnes sont blessées. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Corinne, bonjour
vous
à tous.
Vous êtes notre correspondant en Allemagne et le gouverneur de Bavière parle d'un probable attentat.
Oui, ce sont ces mots, Corinne. La police et les autorités bavaroises qui donnent également des précisions sur le profil du conducteur qui a été interpellé quelques minutes après cette attaque. Il s'agit d'un demandeur d'asile de 24 ans, originaire d'Afghanistan. C'est lui qui était au volant de cette Mini Cooper qui est allé s'écraser contre la foule rassemblée ce matin sur la Königsplatz dans le centre de Munich. Nous sommes là entre la gare centrale et la vieille ville. C'est un secteur très fréquenté habituellement et encore plus ce matin car c'est là que le syndicat allemand des services Verdi organisait une manifestation. Selon les premiers témoignages, l'homme aurait accéléré au moment où il approchait de la foule. Il a renversé plusieurs manifestants. Vous l'avez dit, le bilan est de 28 personnes blessées, dont au moins 2 sont en danger de mort. Le journal Bild évoque, lui, plusieurs enfants parmi les victimes de cette attaque qui survient à 10 jours des élections législatives allemandes. Les questions d'immigration, de sécurité figurent désormais en tête des thèmes de cette campagne après plusieurs agressions meurtrières commises par des étrangers ces derniers mois en Allemagne.
Merci beaucoup Sébastien Baer. En direct d'Allemagne. J'ajoute que Munich est à la veille de l'ouverture demain de sa traditionnelle conférence sur la sécurité, conférence qui réunit des diplomates et des responsables politiques du monde entier. Renouveler, raccorder, renforcer l'infrastructure électrique en France, c'est le plan annoncé par RTE, le réseau de transport électrique, avec un montant d'investissement colossal, 100 milliards d'euros d'ici 15 ans. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Vous êtes en direct de La Défense, où se tient une conférence de presse donc de RTE. Alors on parle d'une révolution électrique pour accélérer la transition écologique. Comment ça va se traduire sur le territoire, Delphine ?
Oui, c'est un plan digne du plan Messmer des années 70, lorsque la France, vous savez, a construit son parc nucléaire. La consommation de courant va augmenter dans les années qui viennent avec l'électrification des usages. Il y a aussi de nouveaux parcs éoliens en mer à raccorder, les futurs réacteurs EPR2 à Penly, Gravelines et Bugey. Or, le réseau construit dans l'après-guerre n'a pas été dimensionné pour accueillir autant d'électricité. Dès 2030, RTE prévoit qu'il sera saturé en journée. Pour éviter les risques de congestion, notamment sur la façade atlantique, renforcer ce réseau est indispensable. Il va falloir changer de câble, doubler certaines lignes, voire les enterrer quand c'est possible. Le gestionnaire s'engage dans une course contre la montre pour raccorder dans les délais 140 projets industriels, 40 data centers, 40 pour l'hydrogène et le reste pour alimenter des sites industriels. Sans compter le changement climatique qu'il faut prendre en compte, il faut résister aux inondations, mais aussi à un réchauffement à 4 degrés en 2100. Ce plan va donner lieu à une grande concertation sous l'égide de la Commission nationale du débat public.
Et est-ce qu'on sait, Delphine, d'où viendront les 100 milliards d'euros annoncés ?
Alors RTE va emprunter, comme c'est un monopole public, le gestionnaire se finance à bas coût sur les marchés obligataires. L'an passé, RTE a dépensé au million près. Ce plan coche les cases des investissements verts de la Banque européenne d'investissement. Quant à l'impact sur les tarifs, sur la facture d'électricité, 1 euro de plus le mégawatt-heure l'an passé, eh bien ce sera amorti selon RTE sur 40 ans. À ce stade, les tarifs qui financent le réseau représentent 7% de notre facture, une composante minoritaire et qui est appelée à le rester selon RTE.
Merci beaucoup Delphine Simon avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Et puis c'est un autre pas vers la décarbonation de l'énergie. Le gouvernement annonce une loi pour convertir au gaz naturel et au biogaz la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Depuis bientôt 3 ans, la guerre en Ukraine a justement fortement perturbé le marché mondial de l'énergie. Alors va-t-on vers une résolution rapide du conflit ? En tout cas, Donald Trump et Vladimir Poutine sont décidés à ouvrir les négociations. Ils se sont parlé au téléphone hier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a seulement été tenu informé. Avant même le début de ces discussions, le président des États-Unis a écarté un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014, ainsi qu'une future adhésion du pays à l'OTAN. Alors que pensent les Ukrainiens de cette paix, a priori négociée sans eux ? Reportage d'Agathe Mahué à Dnipro, dans le centre du pays.
Olia soupire immédiatement à l'idée de ces échanges entre Moscou et Washington.
Sans les Ukrainiens, ce n'est même pas la peine de lancer ces négociations. Notre pays doit y participer activement. Ce n'est pas possible autrement.
Elle a quitté en avril 2022 sa ville de Mélitopol, occupée par les Russes. Olia dit que tout le monde ici veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. et pas sans les Européens non plus, ajoute Vitali.
L'envie de Trump de tout résoudre lui-même en laissant l'Europe à l'écart, ce n'est pas acceptable. On dit qu'il faut juger sur pièce, mais là, vu le comportement de Trump, je ne sais pas comment ça va finir. C'est quelqu'un de complètement imprévisible. En plus, il s'en fout de l'Ukraine et de ce qui se passe ici. Ce n'est pas son problème.
Quelle paix, quel territoire ? C'est toute la question, confirme Yulia. Impossible pour elle d'imaginer un cessez-le-feu aujourd'hui qui figerait les positions militaires et dessinerait de nouvelles frontières.
C'est très difficile d'admettre que nos proches, là-bas, vont rester de l'autre côté, comme derrière le mur.
Elle essuie une larme et répète que cette perspective est très dure psychologiquement.
Agathe Mahué à Dnipro. Côté européen aussi, on s'inquiète de cette ligne directe entre Washington et Moscou. Le chancelier allemand refuse, dit-il, une paix imposée à l'Ukraine. Deux mois après la chute de Bachar al-Assad, quel avenir pour la Syrie ? Il en sera question cet après-midi à Paris où se tient une conférence internationale en présence du nouveau chef de la diplomatie syrienne. Présentation des enjeux avec Christian Chéneau.
Ce n'est pas une conférence de donateurs avec des annonces d'aide financière à la clé, tient-on à préciser à l'Élysée. Dans cet après-Assad encore incertain, les participants qui comptent les pays arabes, ceux de l'Union européenne et du G7, veulent fixer un cadre pour se réengager en toute confiance, explique un diplomate français. Car il y a des doutes sur les intentions du nouveau maître de Damas, Ahmed Eshera. D'abord, sur le processus de transition politique, sera-t-il vraiment inclusif et démocratique ? Quelle place pour les femmes ? Un compromis avec les Kurdes sera-t-il trouvé ? Enfin, il y a la lutte contre le terrorisme et Daesh. Les Occidentaux ne veulent pas baisser la garde et attendent des gages de la part du nouveau pouvoir syrien qui compte dans ses rangs de nombreux djihadistes étrangers. Aujourd'hui, celui-ci a deux priorités urgentes : le rétablissement de la sécurité et la levée des sanctions qui plombent la reconstruction du pays. Sur ce dernier point, Paris se dit favorable à la fin des restrictions bancaires.
Christian Chéneau, retour en France, où un collectif d'associations assigne l'État en justice pour ses carences dans la lutte contre le mal-logement. Deux recours déposés devant le tribunal de Paris. Une démarche sur le modèle de l'affaire du siècle qui avait obtenu la condamnation de l'État pour inaction climatique. À l'Assemblée, les députés adoptent en première lecture la proposition de loi de Gabriel Attal pour durcir la justice des mineurs. Parmi les nouvelles mesures, la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs délinquants. Dans l'actualité judiciaire, en bref, Bastien Vivès s'est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre. L'auteur de bande dessinée sera jugé pour avoir dessiné et publié dans deux albums des images de mineurs à caractère pornographique. Face à l'augmentation des actes antisémites en France, particulièrement depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, le gouvernement en appelle à un sursaut collectif. Il organise aujourd'hui les assises de lutte contre l'antisémitisme. Ça se passe à la Maison de la Radio. Des assises qui s'adressent particulièrement à la jeunesse, car les paroles qui stigmatisent les juifs explosent, notamment à l'école et l'université. Et les institutions, leur encre amère semble dépassée.
Des lycéens venus témoigner d'un harcèlement quotidien depuis le 7 octobre, insultés, ostracisés parfois par l'ensemble de leur classe parce qu'ils sont juifs.
Le lundi suivant le 7 octobre, deux filles de ma classe sont venues me voir. Ce que le Hamas a fait, c'est mérité, m'ont-elles dit. Nique les juifs. Elles ont scandé Free Palestine comme si moi, Liora, française, lycéenne, j'avais quelque chose à voir avec le Proche-Orient.
Absence de réaction également à l'université où les victimes de ces insultes et agressions antisémites ne viennent plus suivre les cours.
La majorité des étudiants juifs, comme moi, ne se sentent pas à l'aise à Paris. 20% d'entre eux se sont même contraints à arrêter d'aller en cours, souffrent entre eux de l'atmosphère délétère, des actes antisémites impunis et de l'inaction de l'université. Et ceux qui continuent de venir, que font-ils ? Ils se cachent. Oui, c'est le cas de 65% d'entre nous.
Des universités qui ne réagissent pas face à ces dérives, incapables de caractériser l'antisémitisme des insultes entendues par les victimes, explique Nathan M. Salem de l'Union des étudiants juifs de France à Nanterre.
Aujourd'hui, il faut redéfinir l'utilisation des mots, parce que quand le mot sioniste remplace le mot juif, il faut quand même pouvoir qualifier ça d'antisémite aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas.
Ces assises de l'antisémitisme ouvrent donc deux mois de réflexion avec des juristes pour élargir et définir toutes ces nouvelles formes d'agression verbale antisémite qui ne sont aujourd'hui jamais sanctionnées.
Voilà, les assises de lutte contre l'antisémitisme, c'est jusqu'à ce soir. Comment les étudiants et les jeunes diplômés voient-ils leur avenir professionnel? C'est la question posée par une étude de l'IFOP et de l'agence EPOCA à 13 000 jeunes, dont nous vous présentons les résultats en avant-première pour France Inter. Malgré les incertitudes économiques, la Gen Z, comme on l'appelle, reste exigeante envers ses futurs employeurs. Même si les jeunes sont moins sûrs de trouver rapidement du travail, leurs critères de choix, Sonia Princet, sont clairs.
L'élément numéro un reste la rémunération. Le niveau de salaire est toujours ce qui motive le plus les jeunes. Mais en deuxième critère, comme l'explique Alain Darmon, directeur associé de l'agence EPOCA, ils expriment le besoin d'être respectés.
Quand on leur demande c'est quoi le premier critère qui vous ferait quitter une entreprise, hein, soit que vous soyez en stage ou en emploi, le premier critère, c'est le manque de respect ou le manque de considération. C'est une population, en fait, qui veut beaucoup de choses, qui veut à la fois une qualité de vie au travail, du respect, des missions stimulantes.
Des missions de préférence dans de grandes entreprises. Les secteurs les plus attractifs sont le luxe et les nouvelles technologies. LVMH, L'Oréal, Google, Microsoft sont les entreprises préférées des jeunes. Michael Kinle, vice-président en charge du recrutement chez L'Oréal, n'est pas étonné de cet engouement.
Je comprends tout à fait, parce que moi j'étais dans la même situation il y a 26 ans, donc j'étais aussi très attiré. Chez L'Oréal, tous les 2-3 ans, en règle générale, on change de job. Ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui les jeunes ont très très envie. C'est pour ça qu'ils disent, enfin moi rester dans la même boîte pendant des années, difficile à imaginer. Et la mobilité géographique fait partie aussi de la politique RH du groupe, donc de changer, de passer d'une filiale à une autre.
En revanche, les enjeux environnementaux ne sont pas déterminants. Dans leur préférence, les jeunes mettent en avant la culture d'entreprise ou le prestige de la marque.
Voilà, Sonia Princet, spécialiste éducation de France Inter. Et à 13h21, on retrouve Jérôme Cadet à Linguizzetta, en Corse.
Exactement, Haute-Corse précisément, Corinne, pour parler déserts médicaux et couverture médicale en Corse, mais pas seulement. À tout de suite.
Radio France et France Télévisions présentent ici le média de la vie locale. À la télévision, à la radio et sur le web. Ici, c'est le média qui parle d'ici, de notre quotidien, de tout ce qui se passe dans notre région, notre ville ou encore notre village. Parce que vivre au même endroit, c'est partager amour, emmerdement, éclat de rire. Ici, le média qui vit comme nous. Ici.
France Inter, partenaire de Peaky Blinders, The Redemption of Thomas Shelby, à la scène musicale du 12 au 30 mars. Le spectacle événement de Stephen Knight, créateur de la série culte, avec les danseurs de la compagnie britannique Rambert, enfin à Paris. Peaky Blinders, The Redemption of Thomas Shelby, à la scène musicale du 12 au 30 mars. Un spectacle France Inter.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Le temps de votre après-midi, c'est avec Élodie Calac. Bonjour Élodie.
Bonjour à tous.
Beaucoup de nuages aujourd'hui.
Oui, un ciel souvent bien encombré. Alors encore quelques pluies hein, entre le centre-Val de Loire, le sud de la Bourgogne, la Franche-Comté, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Un petit peu de neige vers 1000 mètres sur le Jura, 1500 mètres sur le nord des Alpes. Parfois un petit peu de neige ce soir et cette nuit jusqu'en plaine hein, sur le nord-est. On attend quelques averses aussi cet après-midi sur le sud-ouest, sur le sud des Alpes, avec quand même quelques éclaircies. Un risque d'averses pour la Corse, parfois avec un coup de tonnerre. Le soleil se montre quand même davantage du sud de l'Aquitaine à la Provence. Notez aussi l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'océan. Elle finira par donner un petit peu de pluie de la pointe bretonne au littoral atlantique. Il fait encore frais au nord, mais doux au sud. 4 degrés à Lille, 7 à Caen, Paris, Tours, Mulhouse. 12 degrés à Lyon, 15 à Bordeaux et à Linguizzetta. 17 à Perpignan. Et puis demain, il fera plus froid le matin avec des gelées sur un grand quart nord-est. Attention sur les routes.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter. De 13-14, Jérôme Cadet.
Un 13-14 sur le terrain. Aujourd'hui, vous le savez, nous venons régulièrement à votre rencontre partout en France pour parler des sujets qui vous concernent et donner la parole à ceux qui travaillent pour régler ces problèmes. Et aujourd'hui, nous avons choisi de venir en Corse pour parler des déserts médicaux. Non pas que la Corse manque plus de médecins que d'autres régions de France, mais elle a des particularités fortes dont on va parler ensemble. Le manque de médecins spécialistes en est une. L'absence de CHU en est une autre. D'abord, je vous plante le décor. Nous sommes effectivement à Linguizzetta, une soixantaine de kilomètres au sud de Bastia, dans ce qu'on appelle la plaine orientale. La mer est à quelques centaines de mètres derrière moi. Au loin, les cimes enneigées. Voilà le décor. Bonjour Pierre Rossi.
Bonjour, soyez
les
bienvenus.
Merci de nous accueillir.
Je vous en prie.
Dans votre commune, vous êtes conseiller municipal ici chargé des affaires scolaires et avec nous nos premiers invités, Antoine Grisoni. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, médecin généraliste à Solenzara, président de l'Union régionale des professionnels de santé et des médecins libéraux de Corse. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour venir jusqu'ici, monsieur Grisoni ?
J'ai mis une heure, qui est un temps hivernal, puisque l'été, je pense que j'en aurais mis deux.
On parle
de temps de trajet.
Oui, c'est ça, pas en kilomètres.
Non, parce qu'en kilomètres, je ne suis qu'à une soixantaine de kilomètres.
C'est très important le temps qu'on met, évidemment, pour aller de son domicile à celui de son médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste. Marie-Hélène Le Seine avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Corse. Vous avez peut-être mis un peu plus de temps que monsieur Grisoni, je crois.
2 heures depuis Ajaccio.
2 heures depuis Ajaccio. Il faut passer de la côte ouest à la côte est de l'île. Ce que vous avez fait ce matin, et on vous en remercie pour venir jusqu'ici. Pierre Rossi, particularité de votre commune, elle est extrêmement étendue entre la montagne, en tout cas les contreforts, et puis la mer.
63 000 km², 15 km de côte, et une ville agricole, une commune agricole.
1200 habitants en ce moment ?
Tout à fait, 1200 habitants l'hiver et 10 000 l'été.
Et pas de médecin ?
Pas de médecin, et ce qui pose problème avec cette amplitude démographique, et ce qui pose problème aussi pour les habitants du village.
Le premier médecin généraliste est à combien de kilomètres ou combien de minutes, puisqu'on parle en temps ?
Une demi-heure l'hiver et 2 heures l'été.
Et donc, vous faites tout pour essayer d'accueillir un médecin depuis des années. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas, vous n'y parvenez pas ?
Non, pour l'instant, et on est très motivés, on va trouver une solution. Vous allez derrière vous.
Alors, c'est ça. On a juste à côté de nous ce bâtiment avec cette grue. Le bâtiment est en train d'être construit. Il est en chantier. Expliquez-nous ce chantier et ce qui est en train de pousser ici.
Ce qui est en train de pousser, c'est un bâtiment communal qui va accueillir un pôle multiservice au rez-de-chaussée et à l'étage un cabinet médical qui sera mis à disposition du médecin qui voudra bien venir chez nous.
Combien ça vous coûte de construire ce bâtiment ?
600 000 euros et il y a un financement, un tiers de l'État, un tiers de la région et un tiers de la commune.
Est-ce que vous avez des contacts avec des étudiants en médecine pour qu'ils viennent s'installer ici ?
Alors, on en a eu 4 qui n'ont pas abouti, mais on ne désespère pas. On met à disposition, à leur disposition un cabinet médical, plus nous avons proposé de financer des années d'études pour les accueillir ici chez nous.
Pour l'instant, ça suffit pas. Même non. En leur proposant de financer la suite de leurs études, parce qu'il y a une année ici en Corse possible, bientôt la deuxième, bientôt la troisième. Et même quand vous dites on vous paye peut-être une partie de votre appartement à Marseille ou ailleurs, ça suffit pas.
Ça ne suffit pas, mais on ne désespère pas.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait contraindre les médecins à s'installer ?
Il faudrait les inciter.
Vous venez à Lingwiz, c'est comme ça.
Je dirais plutôt qu'il faut les inciter. Nous sommes ici pour être des facilitateurs. Donc la commune fait tout ce qui est en son possible pour accueillir un médecin.
Voilà un cas qui peut faire réagir nos invités. Antoine Grisoni, est-ce qu'il faut contraindre les médecins à s'installer dans une commune comme celle-ci qui en cherche désespérément ? Et monsieur Rossi et les élus, ils se battent ici pour faire venir des médecins. Pour l'instant, ça ne marche pas.
C'est un gros sujet, ça revient régulièrement auprès de nos élus nationaux. C'est une erreur fondamentale de penser qu'on pourrait contraindre. Il y aura 2 effets pervers et une réalité, c'est qu'il n'y a plus de zones surdotées en France où on pourrait prendre des médecins pour les installer ailleurs. Ça n'existe pas.
Donc on déshabillerait forcément une région
voilà,
de France.
Que ces régions très démunies ont la particularité d'offrir assez peu de qualité de travail supposée aux jeunes médecins. Et en fait, on voit bien que c'est pas les conditions financières qui les attirent en premier. Elles peuvent venir en second pour consolider une décision. Mais si vous venez tout seul à Lingwiz, quelle que soit la sympathie que j'ai pour mon voisin de gauche et l'attrait de sa commune, aucun jeune médecin aujourd'hui ne le fera. Ce que nous avons fait, nous, pendant des années, c'est terminé, ça, parce qu'ils sont biberonnés à l'exercice coordonné, ils sont biberonnés à l'exercice en groupe, et je crois que c'est une bonne chose pour la qualité des soins et la sécurité des patients, mais vous ne les ferez pas venir ici, tout seul, avec comme perspective d'être isolé et de faire 70 heures de travail par semaine.
Marie-Hélène Lessen, est-ce que vous êtes sur la même ligne qu'Antoine Grisoni, qui représente les médecins ?
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que les conditions d'exercice priment dans les motivations hein, des médecins au moment de leur décision d'installation. Et même quand on a un médecin qui viendrait s'installer ici, ce qui est important, c'est de lui permettre d'entrer dans le collectif de professionnels de santé qui est actif sur ce territoire pour lui permettre vraiment de s'inscrire finalement dans un exercice coordonné, puisque c'est le motif principal de l'attractivité des territoires désormais.
1126 médecins dans l'île, ça sont les chiffres de début 2023, ça fait une moyenne de 323 pour 100 000 habitants, c'est 341 au niveau national, on n'est pas loin de la moyenne nationale. La particularité, Antoine Grisoni, c'est qu'ici les médecins sont vieillissants, ils sont plus en moyenne que dans les autres régions de France.
Effectivement, la population aussi est plus vieille en moyenne, et il y a des grosses disparités territoriales avec des endroits où c'est à peu près correct, d'autres où c'est très insuffisant. Il y a des temps d'accès, vous l'avez dit, qui sont très importants. Donc, il y a des zones entières qui sont démunies, comme un peu comme ici. Et donc, c'est une problématique. Et puis, il faut bien retenir que la moyenne nationale dont nous sommes proches n'est pas forcément suffisante pour l'accès aux soins sur le territoire national. Donc, c'est pas tellement un objectif d'être dans la moyenne nationale. On devrait peut-être essayer d'être plus haut, non pas pour nous-mêmes, mais d'une manière générale. Donc, c'est un enjeu majeur qu'aurait dû résoudre ou commencer à résoudre la réforme des études de santé avec un accès plus large aux deuxième et troisième années. Mais on a l'impression, je parle sous couvert, mais que ça n'est pas une réussite. Beaucoup de parents d'étudiants et beaucoup de professionnels se plaignent qu'on n'a pas le résultat escompté. Et en plus, c'est d'une complexité monstrueuse.
44% de médecins ont plus de 60 ans ici dans ce département de Haute-Corse. Marie-Hélène Le Seine, l'annonce cette semaine d'une possibilité pour les étudiants de faire leur deuxième année puis leur troisième année de médecine ici en Corse, sans partir sur le continent. Qu'est-ce que ça va changer selon vous ?
Déjà pour la première année, on a des résultats tout à fait satisfaisants puisque 80% des étudiants reviennent quand ils font le choix de la médecine générale et on est aux alentours entre 40 et 60% pour les spécialistes. Donc on a un enjeu de retour des étudiants corses, notamment sur les spécialités. Mais il faut noter aussi que la dynamique des maîtres de stage ici et des lieux de stage hospitaliers nous permettent d'avoir vraiment un quota d'internes assez important. Et nous avons comme ambition d'avoir un quota supplémentaire au titre de la fameuse quatrième année l'année prochaine, mais aussi dans le secteur hospitalier. Et ça, ce sont des dynamiques tout à fait vertueuses. C'est la capacité à accueillir les internes pour pouvoir leur proposer notre dynamique de projet, nos filières de soins.
Les internes sont les étudiants en médecine.
Tout à fait. Mmh. Ça, c'est vraiment précieux et c'est l'un des enjeux de nos travaux en cours.
Alors, l'hôpital le plus proche d'ici, Pierre Rossi, combien de temps pour aller à Bastia ?
Une heure.
Une heure pour aller à Bastia.
L'hiver.
L'hiver, toujours l'hiver, parce qu'évidemment, les routes sont plus fréquentées l'été. Je m'y suis rendu hier à cet hôpital de Bastia. J'y ai retrouvé Christophe Arnoux. Il est depuis 2 ans et demi le directeur général de l'hôpital. Et je l'ai retrouvé dans un endroit bien précis de l'établissement que les Corses connaissent bien.
Donc là, nous sommes dans le sas d'accueil, donc de l'entrée des urgences. C'est là où arrivent tous les patients couchés, que ce soit par ambulance ou par les pompiers.
Là, il y a deux camions de pompiers derrière nous.
C'est ça, deux camions de pompiers, deux ambulances, trois ambulances. Il y en a une autre qui attend encore à l'entrée. Donc ça montre que le service des urgences est très actif, y compris le soir.
Je vous le confirme, il y a des gens qui sont en train d'attendre. On a vu un jeune homme qui arrivait sur un brancard il y a quelques minutes. Est-ce que ce lieu a beaucoup changé depuis 40 ans ? Je crois que l'hôpital a été inauguré ici en 1985, donc il fête ses 40 ans cette année finalement.
Vous voyez juste, c'est un hôpital qui baigne un petit peu dans son jus malheureusement. Ici, service des urgences, conçu en 1985 pour accueillir 17 000 passages. Et aujourd'hui, on fait pratiquement 39 000 passages. Donc forcément, on est saturé quasiment tous les jours. Et on a des conditions de travail qui sont quand même très difficiles pour nos équipes.
Ça veut dire beaucoup d'attentes ? On va se laisser passer le brancard derrière nous qui est vide puisque les pompiers repartent.
Alors ça veut dire beaucoup d'attentes, ça veut dire une attente relativement classique par rapport à ce qu'on peut connaître dans les services d'urgence, mais par contre des conditions d'accueil qui sont malheureusement dégradées par rapport à un service moderne.
C'est une situation que vous avez connue dans vos postes précédents, à ce point-là ?
Non, pas à ce point-là. Là, on est dans une situation un petit peu exceptionnelle, dans la mesure où en fait on a eu aussi une énorme augmentation d'activité sur les 3 dernières années. On est sous tension et en manque de lits au moins 3
360 jours dans l'année. On ne se déclare quasiment même plus en hôpital en tension, puisque nous sommes en tension tous les jours. Et tous les jours, absolument tous les jours, nous recherchons des lits pour pouvoir hospitaliser les patients. On a bien souvent des problématiques de fonctionnement qu'on ne rencontre pas sur le continent et qui ne sont pas forcément comprises du continent. Et quand on ne les vit pas, on ne les comprend pas de la même façon. Donc oui, on n'est pas sûr d'être toujours compris et entendu.
Ça veut dire aussi des difficultés pour trouver des urgentistes? Vous manquez d'urgentistes aussi?
Alors évidemment, de grosses difficultés, puisque quand vous avez des conditions de travail qui sont aussi difficiles que celles qu'on a à Bastia, c'est difficile de trouver des urgentistes. Alors même si la mission est passionnante, puisqu'on voit sur l'île et on a des missions pour l'hôpital de Bastia, on a des missions de recours, donc il y a un intérêt particulier, mais effectivement, il faut vouloir travailler dans ces conditions, c'est pas simple.
Quelles solutions vous arrivez à mettre en place pour éviter que ces urgences-là soient engorgées?
Alors là, c'est extrêmement compliqué. On a surtout un projet de rénovation, parce que même si on veut reconstruire l'hôpital, c'est quand même un projet qui a 10-12 ans. Dans l'attente, on va sortir un projet de réhabilitation. Donc c'est un projet qui pourrait sortir d'ici 2027 pour réhabiliter le service des urgences.
27 pour la réhabilitation de ce service des urgences. Christophe Arnoux, son directeur général. Il y avait une trentaine de personnes hier soir aux urgences de Bastia. Marie-Hélène Le Seine, ce sont des mots forts qu'on vient d'entendre. Il nous dit, moi j'ai jamais connu cette situation. Il a occupé plusieurs postes dans l'Est de la France. Et il explique aussi que parfois il a du mal à faire comprendre à ses interlocuteurs du continent la spécificité de la situation ici en Corse. Comment vous réagissez? Est-ce que vous, en tant que directrice de l'ARS, vous ressentez ça aussi dans vos échanges que vous pouvez avoir avec les autorités?
Oui, on a besoin de faire de la pédagogie sur la spécificité de la Corse, notamment sa géographie et l'effet de l'afflux de touristes l'été, en fait, hein, qui demande une élasticité du système de santé qui est assez impressionnante. S'agissant du centre hospitalier de Bastia, à noter hein, le fait que de nombreux projets, notamment le projet immobilier, mais également l'augmentation de lits, je dirais d'aval,
oui.
Sont bien programmés, ce qui devrait...
Les lits d'aval, c'est les lits qu'on occupe après les urgences.
Post-soins aigus, en fait.
C'est ça. Hein,
donc c'est, et ça, c'est un élément important dans l'approche territoriale de la Haute-Corse. Et en amont, hein, il faut vraiment souligner la mobilisation des médecins libéraux pour offrir aux patients une solution qui est adaptée lorsqu'il ne s'agit pas d'urgence vitale et qu'on n'a pas besoin d'aller aux urgences.
Concrètement, Antoine Grisoni, ça veut dire quand on est médecin généraliste, on fait tout pour éviter que son patient il aille aux urgences?
Bon, on fait tout. Et malheureusement, quand on n'a plus le choix, on voit souvent, comme l'a dit le directeur, nos patients revenir quelques heures après ou en pleine nuit parce qu'ils n'ont pas de solution d'hébergement pour continuer les soins. On essaye de s'organiser, comme on l'a toujours fait. Mais comme on est de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés, ça devient de plus en plus compliqué. On envisage de s'appuyer de plus en plus sur la e-santé, sur le numérique, parce qu'on est un territoire vraiment emblématique de l'utilité de ce genre de solution.
Consultation à distance, c'est ça?
Téléconsultation, mais ouais. Médiée, hein. Pas de téléconsultation sans professionnel de santé à côté du patient. Ça, il faut l'interdire sur le territoire national. Je le dis maintenant, ça sera pas fait, mais c'est vraiment une catastrophe. Et on a un deuxième handicap par rapport à ça. C'est un réseau Internet qui est pas toujours suffisant. Et récemment, à l'EHPAD, on a eu une démonstration de mallette très intéressante pour laquelle on nous a dit, bah, si vous n'avez pas de connexion, on va vous offrir l'antenne Starlink. Et personnellement, ça me désole un peu.
Elon Musk assure la couverture Internet de la Haute-Corse. Vous n'êtes pas vraiment favorable?
Ouais. Sans compter qu'une fausse manip pourrait nous voir arriver un drone. Bon, passons.
Bon, ça, ce sont des possibilités offertes. Il y a effectivement une meilleure couverture Internet. Ça aussi, c'est une possibilité pour permettre aux gens d'avoir accès aux soins, même à distance. Il y a beaucoup de tentatives d'expérimentation qui se sont fait jour ces derniers mois, ces dernières années en Corse, par l'État et par les communes. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Reporter, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Je vous demande pas combien de kilomètres vous avez fait depuis le début de la
semaine. Beaucoup d'heures.
Voilà, c'est plus les kilomètres, c'est les heures, c'est vrai. Vous êtes rendu notamment à Cargèse. Là, on y sera dans quelques minutes à Cargèse. Et avant cela, à Cozzane, Corse du Sud. Donc c'est l'autre département corse, 250 habitants là-bas. La pharmacie a fermé en 2019, mais la municipalité et l'agence régionale de Corse ont lancé une expérimentation depuis juillet dernier pour ouvrir ce qu'on a
appelle une antenne pharmaceutique un jour par semaine. En quoi ça consiste ?
En fait, la pharmacie avait fermé ses portes pour des raisons économiques, pas assez rentables. Le maire du village, Jean-Jacques Ciccolini, en poste depuis 1986, s'est battu pour décrocher cette expérimentation, pour que les patients puissent récupérer leurs médicaments tous les jeudis. C'est lui qui nous ouvre les portes de l'officine.
Rentrons dans le cœur de la pharmacie. Vous avez la banque d'accueil et je laisse ouvert une fois par semaine.
Pour le maire, la présence de cette pharmacie dans sa commune est indispensable.
On ne laisse pas en déshérence au niveau médical ce type de patientèle. Je dirais, il faut aller vers la patientèle, vers les besoins réels de la population, même si ça ne manifeste pas. La santé n'a pas de prix, mais on y met, je dirais, une rentabilité au bout. Il y a une comptabilité qui est effectuée qui ne devrait pas avoir lieu.
Les habitants sont très contents de la réouverture de cette pharmacie, même un jour par semaine, à l'image de Sébastien.
C'est vraiment une évolution positive pour le village. En fait, ça crée un espoir pour les personnes qui vivent à l'année ici.
Mais pour le moment, il n'y a pas assez de monde qui vient sur place retirer ses médicaments, comme l'explique Vivien Delpoux, gérant de la pharmacie à Sainte-Marie-Sichet, située à 40 minutes de Cosane et porteur de ce projet.
Les populations, comme je vous disais, ont changé leurs habitudes, notamment médicales, donc vont consulter un médecin peut-être plus bas, ici à Sainte-Marie-Sichet, ou encore plus bas sur Ajaccio. Et de ce fait, le plus dur pour nous aujourd'hui, en ramenant ce service, je dirais, localement, est de ramener ces populations à nouveau au sein du village de Côte-Sanne.
L'Agence régionale de santé a déjà déboursé 25 000 euros pour ce projet. Cette expérimentation devrait durer 3 ans.
Ça parle à tout le monde, évidemment, Victor. Hein, en 15 ans, près d'une pharmacie sur 5 a fermé en France. Marie-Hélène Le Seine, c'est un dispositif qu'on peut généraliser, ces antennes pharmaceutiques, ces pharmaciens qui viennent comme ça de temps en temps pour permettre d'ouvrir une officine ?
Oui, c'est-à-dire que le ministère de la Santé a ouvert la possibilité de conduire des innovations dans les régions. Et donc, nous avons 10 projets en Corse hein, de cette nature. Et donc, on est évalué pour éventuel déploiement. Donc, pour l'instant, on est au démarrage de l'antenne de pharmacie de Côte-Sanne. Et donc, on aura une évaluation qui pourrait nous permettre effectivement de résoudre la situation d'autres villages en Corse. Et donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir innover, adapter, et la Corse est un laboratoire de ce point de vue. Donc on a d'autres projets tout à fait intéressants. On a du service de suite de réadaptation cardiaque, hein, Eva Corse, qui probablement lui va être déployé à l'échelle nationale dans les mois qui viennent. On a développé avec les pharmacies d'officine une offre hein, de premier niveau qui s'appelle une expérimentation qui s'appelle OSIS et qui permet des réponses de la part des pharmaciens et notamment l'été quand de nombreux touristes peuvent avoir de petits soucis de santé. C'est une première ligne qui est très appréciée et qui permet aussi de libérer du temps médical pour une activité strictement dédiée aux patients qui en ont besoin.
Ça, ce sont pour les tentatives, les expérimentations et les aides apportées par l'État, par l'Agence régionale de santé. Les communes aussi se démènent. Ici, à Linguizet, on en a parlé il y a quelques minutes, et aussi dans votre commune. Bonjour André Rocchi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Prunelli di Fiumorbo. Combien de temps de route pour venir, vous, ce matin?
Trois quarts d'heure
de route. C'est plus au sud, hein, 3800 habitants dans votre commune. Et combien de médecins?
7 médecins.
7 médecins traitants.
Dont un pédiatre.
Une pharmacie aussi?
Une pharmacie. Un plateau radiologique exceptionnel avec IRM, scanner, écho Doppler, tout.
Tout ça dans une commune de moins de 4000 habitants. Comment est-ce que vous avez réussi tout cela, André Rocchi?
Je n'ai pas réussi tout ça. C'est parce que, à l'époque, les médecins de terrain ont eu l'audace de créer. Ensuite, ça a été validé parce que ça avait été mis en place. Donc, des généralistes ont créé la radiographie. Des généralistes ont pris en charge les urgences et la partie SAMU. Et donc, force était ensuite de continuer l'expérience. Mais c'était une époque où on avait la liberté d'entreprendre.
On parle de quelles années?
C'était dans les années 80 ouais. et 70. Donc, c'était une époque où le médecin était plus à même de définir le besoin et non pas les administrations. Et ils prenaient sous leur responsabilité de développer l'outil médical. Et surtout, à l'époque, ils mettaient en avant, à travers une éthique médicale, ils mettaient en avant l'humanisme et non pas la pression normative qu'il y a actuellement.
Et ça veut dire qu'avec ces premiers médecins, dans les années 80, ensuite, vous avez toujours réussi à les renouveler. Il y a, je suppose, des médecins qui sont partis à la retraite depuis et d'autres qui se sont installés. Vous avez gardé cet dynamisme.
Oui, tout à fait. Ils étaient attirés par le fait qu'il y avait un confort local de la prise en charge de nos patients, en particulier sur les urgences. Il faut savoir qu'à l'époque, nous avons suivi des cours pour être urgentistes et nous sommes urgentistes. C'est ce qui est paradoxal à notre époque.
Vous-même ?
Oui, moi-même, oui, tout à fait. Je suis généraliste et urgentiste. Mais paradoxalement, les autorités ne me laissent pas faire les deux professions. Or, le généraliste, c'est le couteau suisse de la ruralité. Il doit tout pouvoir faire. À chaque instant, dans ma profession, on me dit « Oui, mais vous êtes généraliste, vous n'êtes pas sur les versants urgentistes, donc vous n'avez pas le droit de faire ça et ça. »
Donc, ce que vous dites à Madame Le Sen et au ministère de la Santé, si je puis dire, c'est « Laissez-nous faire davantage de choses, on est compétents. »
Je dis tout simplement « Remettez l'humanisme au centre de la profession, reconnaissez que l'éthique médicale vaut mieux que la pression normative. »
Mais ça veut dire que qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire concrètement ?
Ah bah, c'est très simple.
Des soins que vous pourriez faire bah, et on envoie à l'hôpital.
Je vous donne un exemple, un enfant qui s'étouffe avec une crise d'asthme, je n'ai plus l'aérosol. Parce qu'un génie a dit « Non, il ne faut plus laisser les généralistes faire les aérosols. »
Et donc, si ça se passe dans votre commune, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant ?
Eh bien, le relais a été pris par un SMUR qui a été créé parce que les médecins faisaient le SMUR à l'époque, les médecins généralistes. Le relais a été pris.
Je vous en prie, allez-y, monsieur Roquet.
Et donc, ayant pris ce relais, ils étaient obligés de continuer. Lorsque nous avons arrêté parce que l'État nous a dit « Vous ne faites pas partie du service public », on nous a laissé tomber, il y a eu des morts. Et donc les morts étaient sous la responsabilité de ceux qui ne créaient pas le SMUR. Et c'est comme ça que le SMUR a été créé.
Réaction, Marie-Hélène Le Sen, à ce que dit Monsieur Roquet à l'instant ?
Oui, donc sur ce territoire, on a un développement de population et donc il faut qu'on adapte les ressources. Il y a effectivement un SMUR qui est positionné à proximité de Prunelli. Et on a créé depuis cet été une maison médicale de garde, donc avec des généralistes qui prennent le relais pour assurer les soins non programmés et notamment la permanence des soins ambulatoires le week-end. Et c'est un relais apprécié par la population et qui permet aussi de développer une offre de disons en amont du service des urgences de Corté ou de Bastia.
Un dernier mot, Monsieur Roquet, puis après je voudrais qu'on aille à Cargès avec Victor Delande.
Nous sommes sur un territoire qui doit avoir un hôpital local. La maison de garde, en fait, accueille des gens pour les envoyer, pour l'essentiel, dans les urgences de Bastia, dont vous savez la problématique actuelle.
Et nous y étions hier soir et on
Tout
a entendu
fait. Plus d'action chez le médecin généraliste entraînerait moins de patients dans les urgences.
Alors il y a une autre commune qui, comme la vôtre, Monsieur Roquet, s'en sort bien. C'est de l'autre côté de l'île, Cargès, 1300 habitants situés entre Calvi et Ajaccio. Trois médecins sur la commune ont décidé de créer, avec l'aide de l'ARS, une maison de santé avec des spécialistes qui viennent d'Ajaccio deux fois par mois. Ce projet a même été montré en exemple il y a quelques années, Victor Delande, par l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Oui, ce projet, c'est Dominique Poggi, installé depuis 1987 à Cargès, qui l'a porté. Il nous ouvre les portes de cette maison de santé avec tous ses équipements.
Là, il y a une salle d'ophtalmo avec du matériel quand même assez pointu. À part les scanners rétiniens, on peut tout faire ici. Là, il y a une salle de rééducation pour les personnes âgées. Là, un échographe multifonction.
Une quinzaine de spécialistes se déplacent d'Ajaccio pour consulter cardio, ophtalmo, pneumo, endocrino, gynéco, dermato, urologue. En plus de ces consultations, ce généraliste se déplace à domicile pour les personnes âgées.
Là, on va voir une dame, elle a eu une paralysie faciale et je devais retourner la voir pour voir un peu comment son état clinique avait évolué.
Une couverture médicale exceptionnelle, une chance pour les patients.
Il y a des villages où il n'y a pas un tout.
À Cargès, on a tout ce qui vaut au point de vue médical.
Mais cet équilibre est fragile. Sur les trois médecins de la commune, deux ont plus de 64 ans. Il faut donc penser à la suite et à ces jeunes généralistes plus enclins à s'installer dans les villes.
C'est vrai que le maillage territorial les rassure beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à Cargès, on a une pharmacie, dentiste, orthophoniste, les kinés, les infirmiers, on a des psychologues, on a une podologue, enfin on a à peu près tout, plus la maison de santé. Ça réussit à compenser le fait que parfois, ça peut être difficile pour des jeunes adultes de s'installer dans un village qui est loin d'un centre urbain.
Dominique Poggi est également maître de stage. Il fait tout pour attirer des internes dans sa commune.
Voilà pour l'exemple de Cargès. Antoine Grisoni, le manque de spécialistes, ça c'est vraiment un point crucial ici en Corse, gynécologue, cancérologue, ORL.
Oui, c'est un point crucial, d'autant que nous ne maîtrisons absolument pas notre flux d'internes en spécialité. En médecine générale, ça va un peu mieux avec la maîtrise de stage qui s'est développée, oui. Mais nous sommes quand même tributaires des facultés de Nice et de Marseille, tant que nous n'aurons pas de CHU. Et concernant les spécialistes, nous sommes soumis à des quotas qu'on essaye d'augmenter, comme a dit la directrice, mais pour l'instant, effectivement, ça reste insuffisant. Et puis, il y a le problème des plateaux techniques, qui peut être rédhibitoire pour certains spécialistes qui vont pas vouloir venir si les plateaux techniques ne sont pas suffisants. Et les filières étant assez en tension, assez fragiles, ils ont peur aussi d'être débordés de travail s'ils acceptent de venir. Donc on doit compter sur leur... Sur le cours de Lille, elle existe. Avant qu'il y ait une première année à Corté, beaucoup de médecins revenaient exercer en Corse par définition. Sinon, il n'y aurait jamais aucun médecin. Mais c'est un des gros, gros sujets, un des gros, gros enjeux de Lille actuellement.
Vous avez prononcé le mot CHU. Je voudrais qu'on en parle avec vous, Marie-Hélène Le Seyn. Juste d'un mot avant, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Il y a beaucoup d'infirmières dans Lille. Il n'y a pas de problème d'infirmières et de densité d'infirmiers et d'infirmières.
Non, on a effectivement un nombre d'infirmières libérales important dans Lille, ce qui nous permet de maintenir le modèle qu'on a choisi jusqu'à présent d'un maintien à domicile des personnes âgées plutôt que d'une L'EHPAD. Approche strictement institutionnelle à travers les EHPAD. Et donc, pour l'instant, effectivement, ce choix qu'on a fait avec la collectivité de Corse semble pouvoir être soutenu grâce à ces infirmières libérales.
Et ici, il y a moins d'EHPAD que sur le continent. Voilà, c'est une particularité ici en Corse, à laquelle, Monsieur Rocchi, je crois, les Corses sont très attachés de conserver ce modèle-là.
Oui, on est très attachés à ce que les patients restent jusqu'au bout à leur domicile. Ce qui est très important, parce que c'est le moment le plus important de la vie, c'est les derniers instants que nous voulons vivre à domicile. Tout est fait pour aider. Parce que les patients finissent dignement à l'hôpital, mais nous voulons à tout prix que l'humanisme là aussi se traduise par finir ses jours au milieu des siens avec l'affection qu'il aurait dû.
Le projet de CHU, il nous reste quelques minutes pour en parler, centre hospitalier universitaire, il a été annoncé il y a quelques semaines. La Corse est la seule région qui n'en dispose pas, si bien que beaucoup de patients sont obligés d'aller se faire soigner pour certaines pathologies sur le continent. Paul Giacometti, c'est je crois votre cas, bonjour.
Oui, c'est mon cas.
Merci d'être avec nous, vous êtes adjoint au maire ici à Linguizeta. Vous souffrez de deux cancers, c'est ça?
Deux cancers, oui.
Vous pouvez nous raconter comment vous combattez ces cancers?
Déjà, pour trouver le premier cancer, c'était une tumeur neuroendocrine. Le chirurgien à l'opération ne savait pas ce que c'était. Donc, on a fait les analyses et ils m'ont envoyé directement à l'IPC à Marseille.
Vous allez souvent à Marseille?
J'y ai été pendant une dizaine de fois, de fil, en soins. Et puis après, comme la maladie n'évoluait pas, on m'a dit de rester sur Bastia. Donc, je suis suivi sur Bastia. Et donc, ça se passe bien. Donc, après, par la suite, j'ai eu encore... La maladie de Vaquès, c'est les trop de globules rouges, ça fait partie d'un cancer du sang. Donc je soigne ça aussi sur Bastia.
Il y a beaucoup de Corses comme vous qui prennent l'avion pour aller se faire soigner à Marseille, à Nice.
C'est-à-dire que tous les matins, quand vous prenez l'avion à 7h, vous revenez l'avion du soir, c'est toutes les mêmes personnes avec les mêmes dossiers.
Donc vous n'êtes pas seul.
On n'est pas le seul.
Vous n'êtes pas seul dans ce cas.
C'est 75% de l'avion qui est fait pour des maladies.
Vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné par une association d'utilité publique qui s'appelle l'INSEM, qui vient en soutien aux patients qui doivent se rendre précisément sur le continent. Vous êtes chargé de mission pour cette association, Émilie Blanchard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Même question, vous avez mis longtemps pour venir ici? Vous venez d'où?
De Bastia, j'ai mis 50 minutes.
De Bastia, 50 minutes en hiver,
En hiver, bien sûr.
toujours depuis le début de cette émission. Vous aidez, alors il y a des aides, je suppose, de l'État pour les patients qui doivent prendre l'avion.
Alors... Oui, lorsque les pathologies ne peuvent pas être soignées en Corse, eh bien les patients partent dans le cadre d'une prise en charge de l'assurance maladie. Donc les billets sont pris en charge avec les accompagnants. Ça dépend bien sûr de la pathologie.
Certaines pathologies, l'accompagnant est pris en charge et d'autres non, c'est ça?
D'autres non. Le transport est pris en charge. En revanche, l'hébergement n'est jamais pris en charge. C'est là où l'association INSEM intervient. C'est-à-dire qu'on va aider déjà, pour au niveau logistique, aider les patients à organiser le déplacement, prendre les billets, trouver un taxi, se faire rembourser, etc. Et pour le logement, étant donné que pas de prise en charge de l'assurance maladie, certaines mutuelles prennent en charge, mais lorsqu'il n'y a pas de prise en charge, l'association délivre des aides financières, notamment. Donc on rembourse des nuitées d'hôtel.
Vous payez les nuits d'hôtel.
On paye les nuits d'hôtel.
Et vous avez même acheté des appartements.
Exactement, on a 9 appartements sur le continent grâce à des dons.
C'est à Marseille?
Marseille, Paris et Nice. L'offre est très restreinte en fait des hôtels, c'est vite saturé selon les saisons, selon les événements, et les hôtels sont chers. Donc on a décidé d'acheter des appartements qui sont bien sûr très souvent complets. D'ailleurs, l'objectif de 2025, c'est d'acheter un nouvel appartement à Nice parce que les familles en ont besoin. Lorsque vous partez pour une longue durée, que vous en avez pour 3 mois de chimio, vous ne pouvez pas rester seul. Donc votre famille doit être à vos côtés. C'est très important. Donc on
prend. Il y a beaucoup de patients comme Monsieur Giacometti qui sont concernés chaque année.
CPM enregistre 26 000 déplacements chaque année et l'association INSEM en 2024, nous avons aidé 1 400 personnes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on prend en charge certains billets de transport, donc d'avion et de bateau pour Marseille et Nice, puisque lorsque vous partez pour une longue maladie, donc en long traitement, il n'y a pas de prise en charge de l'assurance maladie. Donc les personnes se retrouvent à payer eux-mêmes pour aller voir leurs proches. Et là aussi, on intervient pour que les personnes se relaient au chevet de leurs proches. C'est très important.
Des enfants aussi.
Bien sûr. Évidemment.
Des cancers pédiatriques, on ne peut pas traiter ici en Corse.
Et également des bébés nés prématurés, des grossesses aussi compliquées. Donc les mamans partent avant l'accouchement, elles restent plusieurs mois à Marseille, à Nice. Et ensuite, le bébé arrive, mais comme il n'est pas assez viable pour rentrer en Corse, elles restent des mois. Et c'est là où on peut intervenir.
Comment est-ce qu'on peut vous aider et comment est-ce que vous faites pour récolter de l'argent? Vous êtes une association. Il y a des manifestations, il faut toujours réfléchir.
On organise des manifestations, on a des super bénévoles qui sont là pour nous. Et puis 100% de nos dispositifs sont financés par des dons de particuliers. Nous avons des mécènes très importants, donc évidemment faire un don, voilà comment vous pouvez nous aider.
Marie-Hélène Le Seine, vous qui êtes la directrice générale de l'ARS, je poserai la même question à Antoine Grisoni. La création d'un CHU dans les prochaines années, est-ce qu'elle va permettre de régler une partie de ces situations?
Alors, ça permettrait de résoudre une partie de ces situations. Et d'un autre côté, il faut qu'on ajuste les choses parce que parfois, on a des cohortes de patients en nombre réduit et il nous faut conserver la possibilité d'avoir recours à des plateaux techniques adaptés. Ça assure aussi la qualité et la sécurité. Néanmoins, en Corse, on a par exemple pu démontrer que sur la chirurgie cancer, on pouvait avoir des seuils adaptés à la Corse pour pouvoir développer dans l'île une offre adaptée, notamment en relation avec le vieillissement de la population. Le CHU, c'est un chemin assez long et à court terme, il faut qu'on
assez long,
prépare.
Ça veut dire quoi? Peut-être que vous n'avez pas la réponse, tout simplement.
En fait, il y a des prérequis importants et nous, à court terme, il faut qu'on fasse la démonstration, mettre en place le terreau favorable et on a déjà des filières de type CHU ici en Corse. Hein, on part pas, c'est pas non plus binaire de rien du tout. Au niveau CHU, et on est vraiment dans cette logique de territoire hospitalo-universitaire qui nous occupe en ce moment.
D'un mot sur ce sujet, Antoine Grisoni.
Oui, mieux maîtriser la formation de nos internes et de nos médecins in situ, innover en faisant une mutualisation forte et public-privé, parce qu'on est soumis, comme a dit la directrice, à la loi des petits nombres. Donc le public tout seul et le privé seul ne suffiront pas à assurer un accès aux soins de qualité. Donc il faut innover dans un CHU multisite, qui ne pourra pas être un endroit géographique dédié.
Voilà, c'est-à-dire pas tout à Ajaccio ou pas tout à Bastia. Multisite, ça veut dire dans plusieurs villes de l'île, évidemment. Merci à tous d'être venus jusqu'ici, jusqu'à Linguizeta. Je vais donner la parole à Pierre Rossi dans un instant. Un dernier mot pour vous. D'abord, je voudrais, pour tous ceux qui n'auront pas la chance de venir ici en Corse, vous dire que vous pouvez voir la Corse et de plus en plus sur grand écran. Exceptionnel dynamisme du cinéma corse. Plusieurs films tournés ici sont sortis ces derniers mois. Le dernier, c'est Le Mohican. Son réalisateur, Frédéric Farucci, est corse. Il est originaire d'Ajaccio. Il nous a envoyé un petit message ce matin en pleine promo pour nous expliquer pourquoi il a choisi de filmer son île.
Alors, je trouve qu'il y a quelque chose de très joyeux dans le fait que la Corse soit représentée au cinéma dans des films de qualité. Après, je peux difficilement expliquer les raisons qui peuvent pousser un cinéaste continental à s'emparer de ce territoire pour le représenter dans une fiction au cinéma. Mais pour ce qui concerne les cinéastes corses, j'ai l'impression que ce qui nous réunit est un désir d'interroger via le cinéma la Corse contemporaine. Nous avons envie d'ancrer nos récits sur ce territoire, d'en donner notre représentation en mettant en scène une communauté qui le peuple et dont nous faisons partie. Le cinéma nous offre la possibilité de déployer nos propres imaginaires, d'aborder nous-mêmes les mots de notre société. Et donc, a priori, de s'éloigner des clichés qui caractérisent notre île depuis des siècles. J'ai la sensation qu'on peut apporter une vision plus complexe de l'île qu'elle ne l'a été qu'elle ne l'a été livrée jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a aussi une dimension cathartique dans notre désir d'évoquer l'île au cinéma.
Le Mohican, Frédéric Farrucci, c'est en salle en ce moment. Et les longs-métrages Borgo et le Royaume sont nommés au César. On verra s'ils récoltent un prix. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui en direct de Corse. À la technique, Hélène Langlois et Mickaël Simon. Guillaume Rialan, notre chargé de production. Cécilia Arbona, la rédaction en chef. Claire-Sophie Collet, notre chargé de programme. Merci aussi à cette commune de Linguizet qui nous a accueillis. Merci Pierre Rossi d'avoir été là. Une orthophoniste ici régulièrement. Et on lance un appel pour tous les médecins.
Oui, ils sont les bienvenus, qu'ils envoient leur candidature, nous les accueillerons les bras ouverts.
On salue aussi Séverin Médori, le maire de la commune, qui aurait aimé être avec nous aujourd'hui et qui n'a pas pu l'être. Salut à lui.